journal vous est présenté par François Chagnot. Bonjour François.
Bonjour à tous. Le gouvernement dévoile un nouveau paquet d'aide pour les agriculteurs et espère enterrer définitivement la hache de guerre après des mois de crise. Une trêve est-elle possible à Gaza? Le Hamas dit étudier une proposition israélienne. En France, la ferveur olympique n'a pas gagné les festivals de musique. Les organisateurs se préparent un été très perturbé par les JO de Paris. Et puis, c'est aujourd'hui la 26e édition de la fête de la librairie indépendante. On en parle avec sa fondatrice, notre invitée en fin de journal. Gabriel Attal dévoile donc aujourd'hui une nouvelle série d'aides pour apaiser pour de bon le monde paysan. Ces 14 avancées complètent les 67 mesures déjà annoncées au mois de janvier. On était alors au sommet de la colère des agriculteurs. Bonjour Servane de Pastre.
Bonjour François.
Alors, le Premier ministre détaille en ce moment ces mesures depuis la foire au bulot de Pirou, c'est dans la Manche. Mais on connaît déjà les grandes lignes de ce plan d'aide.
Oui, elle porte notamment sur la trésorerie des agriculteurs. Ce sont au moins 100 millions d'euros qui seront mobilisés à destination des exploitations en difficulté. Ils seront financés par la Banque publique d'investissement, BPI France. Cette aide pourra prendre la forme de prêts directement accordés aux agriculteurs ou de garanties sur des prêts qu'ils pourraient contracter auprès de banques commerciales. Autre mesure annoncée ce matin, les retraites des agriculteurs. Elles seront calculées à partir des 25 meilleures années de revenus. La méthode de calcul faisait débat, elle devrait rentrer progressivement en vigueur à partir de 2026. Le calendrier se précise aussi sur la mise en place du plan Ecophyto qui a pour objectif de réduire l'utilisation des pesticides. Il avait été mis en pause début février pour répondre à la colère des agriculteurs. Le Premier ministre annonce qu'une version définitive de ce plan devrait être présentée début mai. Enfin, le gouvernement s'engage à accélérer la mise en place de 100 projets de stockage d'eau et d'irrigation, des projets contestés par les associations de défense de l'environnement. L'objectif affiché, la finalisation de ces projets d'ici à la fin de l'année.
Merci Servane de Pastre. Les syndicats agricoles majoritaires ont immédiatement réagi ce matin aux annonces du Premier ministre. La FNSEA et les jeunes agriculteurs promettent de surveiller de près la concrétisation de ces mesures. Christophe Chambon est le secrétaire général adjoint de la FNSEA. Il était l'invité de France Info il y a quelques minutes.
Nous attendons avec beaucoup d'attention cette rencontre. Donc, le président de la République qui s'était déplacé lors du salon de l'agriculture. Maintenant, nous sommes dans l'attente et nous espérons avoir une prise de parole du président de la République. On est fin avril, on espère que si c'est pas la fin du mois, ça sera début du mois de mai. Nous rentrons dans la phase de concrétisation, que tout se mette en application et d'avoir un discours du chef de l'État, du président de la République, permettrait justement d'avancer aussi dans cette situation. Aujourd'hui, la crise, il faut vraiment que ruisselle dans les cours de ferme tout ce qui a pu être annoncé depuis des mois.
Le secrétaire général adjoint de la FNSEA, Christophe Chambon, qui était l'invité de France Info il y a quelques minutes. Donc, Gabriel Attal annonce également un plan d'accompagnement de l'agriculture méditerranéenne dans ce paquet d'aide, 50 millions d'euros pour mieux faire face aux dérèglements climatiques et notamment à la sécheresse qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Eh bien, ce plan, nos voisins espagnols pourraient nous l'envier car la sécheresse ravage la région de Barcelone, ses vignobles de cava, à tel point que le grand producteur de ce vin mousseux, Freixenet, va licencier temporairement 80% de ses effectifs, Henri de la Guérie.
Sous un soleil intense, des pieds de vigne à moitié morts, un feuillage moins développé, les vignobles catalans souffrent. Soisig Darnay est paysagiste spécialisée dans la viticulture. Elle travaille depuis 20 ans dans le Penedès.
Bon, alors ici, on a des vignes qui ont environ 20-25 ans. Donc a priori, on pourrait penser qu'elles ont les racines suffisamment profondes pour résister à la sécheresse. Sauf que comme c'est 3 ans de sécheresse, les racines qui vont descendre par exemple à 2-3 mètres se sont séchées également. Et elles sont en train de mourir. Il y a environ 30% de ce champ qui est mort ou qui sera absolument incapable de produire cette année.
Freixenet, leader mondial du vin mousseux, dont le nom s'affiche partout ici, évoque un cas de force majeure pour mettre en chômage partiel 80% de ses effectifs. Un coup de massue pour Josep Marugat, c'est le responsable du secteur vigne pour le syndicat Unió de Pagesos.
Beaucoup de gens travaillent chez Freixenet. L'impact est énorme. On parle d'une entreprise qui produit 40% de toutes les bouteilles de cava. C'est très inquiétant, car on voit bien que c'est de plus en plus difficile de maintenir notre production, notre activité et surtout sa viabilité.
Car au-delà de Freyschenette, les petits producteurs de cava sont aussi en détresse. Des vignes devront être arrachées. Les syndicats craignent une cascade de licenciements.
À la correspondance en Catalogne d'Henri Delaguerie. Nouveaux échanges de tirs cette nuit entre l'Ukraine et la Russie. Kiev affirme avoir touché deux raffineries de pétrole et un aérodrome militaire en Crimée dans la région de Krasnodar. Moscou dément et assure avoir neutralisé cette attaque de drones à grande échelle. Les deux adversaires concentrent leurs assauts sur les infrastructures énergétique depuis plusieurs semaines déjà. Washington a annoncé hier une nouvelle rallonge d'aide militaire à l'Ukraine de près de 6 milliards d'euros. Un nouvel espoir pour une trêve à Gaza. Le Hamas dit ce matin étudier une contre-proposition israélienne en vue d'une pause dans les combats associée à la libération d'otages. Alors, on ne connaît pas officiellement le contenu de cette proposition, mais ce qui est sûr, c'est que les conditions de ces pourparlers ont changé. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour, bonjour à tous.
Il existe donc un mince espoir pour une sortie de crise.
Un accord ou la guerre, c'est le message des autorités israéliennes qui donne donc une dernière chance au Hamas d'éviter une offensive à Rafah. La balle est donc dans le camp de l'organisation islamiste. Selon son chef adjoint à Gaza, Khalil Alaya, le Hamas aurait baissé ses exigences demandant la libération de 750 prisonniers contre l'ensemble des otages. Il serait encore plus de 130 détenus depuis 204 jours, une trentaine d'entre eux seraient morts. Selon la même source, Israël demande à contrôler environ 20% du territoire de l'enclave, une bande de terre au nord et à l'est, le corridor central et quelques points clés à Rafah et à Khan Younes. Alors plusieurs raisons permettent d'être modérément optimiste. D'abord parce que le médiateur a changé, le Qatar prend du recul et l'Égypte est en première ligne. Et le Caire ne veut surtout pas de combat à Rafah aux portes du Sinaï qui pourrait pousser des centaines de milliers de déplacés sur son territoire. Et puis en Israël, la rue maintient la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou avec encore ce soir une nouvelle manifestation de familles d'otages et d'opposants au gouvernement.
Thibault Lefèvre. La flamme olympique a pris la mer à bord du 3 mâts, le Belém, depuis le port du Pérée en Grèce ce matin. Elle est attendue à Marseille le 8 mai. Alors, l'arrivée du symbole des Jeux Olympiques en France, c'est un mauvais présage pour les festivals de musique. Le gouvernement avait en 2022 prévu l'annulation pure et simple de tous les événements entre le 15 juin et le 15 septembre. Il a finalement défini un cadre plus souple qui reste extrêmement contraint pour les organisateurs, Adrien Toffolet.
Cette année, le week-end des 6 et 7 juillet, c'est l'embouteillage. Plus d'une trentaine de festivals de musique organisés partout en France. Et parmi eux, les habitués d'Au Foin de la Rue, en Mayenne, Lisa Bélangeon et sa coordinatrice générale.
La plupart des festivals ont fait le choix de se déplacer entre le mois de mai et le 15 juillet. Donc forcément, on se retrouve en concurrence sur des mêmes week-ends.
Concurrence entre festivals, mais surtout entre festivals et les Olympiades.
Les JO eux-mêmes deviennent clients des mêmes prestataires que nous, puisque finalement, entre les fan zones, tous les événements qui vont se construire font appel aux mêmes prestataires scéniques, de vidéos, nos intermittents, techniciens.
Des prestataires qui, in fine, se tourneront vers le plus offrant et font donc monter les prix. La sécurisation des abords des festivals et la gestion des flux deviennent également un problème, tâche habituellement gérée par les forces de l'ordre qui pourraient cette année être réquisitionnées pour les JO.
Si elles ne sont pas présentes, nous, on pourrait vouloir se sécuriser en renforçant nos effectifs de sécurité professionnelle, mais qu'il faudra payer nos propres frais.
Des coûts supplémentaires qui pèsent sur les finances des festivals indépendants déjà meurtris par les années Covid et l'inflation. Aurélie Andouche est la directrice du syndicat des musiques actuelles.
Depuis la reprise, l'inflation est forte, que ce soit sur le cachet des artistes, sur les salaires, sur l'énergie, sur les assurances, sur la sécurité et tous les prestataires. Donc on a vraiment des charges qui sont en nette hausse, hein. On parle de 15-20% de hausse. Et là, effectivement, avec les JO en plus, le contexte il est quand même de plus en plus complexe et c'est extrêmement difficile d'arriver à se projeter. Aujourd'hui, un festival, même quand il est rempli à 100% de sa jauge, il n'est pas évident en fait qu'il arrive à équilibrer son budget.
Tous croisent donc les doigts pour qu'aucun drame n'arrive avant l'été, qui verrait les conditions d'organisation des festivals durcies par les préfectures jusqu'à l'intenable pour certains événements.
Adrien Toffolet. Aujourd'hui, les amoureux de littérature ont rendez-vous chez les libraires indépendants. C'est la 26e édition de la fête de la librairie par ces libraires indépendants. Bonjour Marie-Rose Garnieri.
Bonjour.
Alors, vous êtes vous-même libraire indépendante.
Vous et vos auditeurs.
Bonjour. Vous êtes vous-même, donc, je le disais, libraire indépendante à Paris et donc fondatrice de cet événement. Alors, le syndicat du livre nous indique que près d'un livre sur deux est acheté en librairie indépendante, mais on sait aussi que le contexte économique n'est pas forcément favorable à votre activité. Alors, comment est-ce que vous vous portez vraiment?
Alors vraiment, bon voilà, ce que l'on ressent évidemment, c'est qu'il y a énormément de mutations à vue d'œil de rapport à, à l'écrit, rapport à la lecture, et il y a effectivement aussi un repliement humain, on constate que les gens dès qu'il y a il fait froid, dès qu'il y a un événement politique qui les boule.
Marie-Rose Garnieri. Nous avons perdu la liaison avec Marie-Rose Garnieri, notre invitée, donc libraire indépendante à Paris, fondatrice du Festival des librairies indépendantes. On va essayer de la rejoindre dans un instant. Je reviens sur cette fin de blocus à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont trouvé un accord avec la direction de l'établissement. Celle-ci s'engage à organiser prochainement un débat interne, notamment sur les partenariats avec les universités israélienne. La direction suspend également les procédures disciplinaires lancées contre plusieurs étudiants. La Russie, à nouveau soupçonnée de piraterie industrielle, l'Italie convoque un diplomate russe après la prise de contrôle de la filiale du fabricant italien de pompes à chaleur Ariston. Lundi dernier, c'est le constructeur de voitures françaises Stellantis qui affirmait avoir perdu le contrôle d'une de ses usines en Russie. Je reviens à notre invité qu'on va joindre dans quelques instants. Je vous propose une page de météo avant qu'on revienne à notre invité. La météo donc, des orages dans le sud-ouest aujourd'hui. Météo France place 8 départements en vigilance orange entre la Charente, les Landes et le Gers. Le temps est globalement couvert cet après-midi avec des pluies attendues de l'Île-de-France jusqu'à la Vendée. Il fait 11 degrés à Rennes, 16 à Paris, 18 à Marseille et 20 à Strasbourg. Nous revenons à notre invitée Marie-Rose Garnieri. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends.
Voilà, je rappelle que vous êtes donc libraire indépendante à Paris, fondatrice de cette fête de la librairie qui fête aujourd'hui sa 26e édition. Alors, vous étiez en train de me dresser le tableau justement économique de votre activité. Voilà, où en sommes-nous ? Alors, si, brièvement, s'il vous plaît, où en sommes-nous ?
Voilà, brièvement, ben voilà, il y a un autre rapport à l'écrit, un autre rapport à on lit autrement, il y a une infobésité des esprits qui font que parfois il y a moins de disponibilité des lecteurs pour un temps long comme ça, un long parcours pour la lecture et tout. Donc on constate cette érosion comme ça de la fin du livre, et c'est la raison pour laquelle nous redisons combien il est très important d'avoir comme ça des librairies à sa portée, comme ça aussi près, parce qu'avoir une librairie à côté de chez soi, c'est avoir des livres et des pensées multiples à sa portée aussi. Donc la mobilisation, c'était de faire entendre la chance et l'exception culturelle que nous avions d'avoir autant de librairies sur tout un territoire, et cette homogénéité de la circulation des livres variés pour les lecteurs. Donc cela veut dire qu'il y a plutôt c'est plutôt une bonne santé pour nos démocraties, et c'est très important de continuer à les défendre. Et je sais que souvent les gens aiment beaucoup les libraires, mais aimer les libraires, évidemment, ce n'est pas que du cœur, c'est aussi bien choisir,
c'est un acte, tout à fait.
Vers ces lieux, ouais, pour y découvrir des livres peut-être qui sont un peu hors des 10 meilleures ventes.
Il y a une problématique qui vous tient particulièrement à cœur, il me semble, c'est bien sûr celui de la jeunesse et de la lecture papier en particulier. Quel rôle est-ce que vous pouvez jouer, vous, les libraires indépendants, par rapport aux grandes chaînes, par exemple? Quel rôle vous pouvez jouer dans ce fait de ramener les plus jeunes vers la lecture sur papier?
Eh bien, écoutez, nous, là, déjà, la première initiative que nous sommes en train de prendre, c'est aussi le sens de cette mobilisation cette année, particulièrement, puisque nous avons été très sensibilisés sur cette chute du désir du livre et cette façon de lire autrement, parce qu'ils lisent beaucoup, mais ils lisent en ligne, ils lisent dans tous les sens, Alors moi, je pense qu'il faut, comme pour la littérature, comme on enseigne la musique, comme on fait une initiation à l'art, il faut, dans les écoles, très petits, enseigner la culture et l'histoire du livre. C'est-à-dire que moi, je vois, quand je travaille avec des écoles à côté de chez moi, eh bien, dès que je leur raconte les 10 métiers qu'il y a derrière un livre, dès que je raconte l'histoire des mutations du livre, des différents supports qui ont fait évoluer le livre, eh bien, je vous assure que les enfants ont changé et déplacent leur regard sur cet objet qui est tout à fait mystérieux, et voilà, qui aujourd'hui leur demande un effort, ils ont l'impression que on l'enseigne de façon assez scolaire. Donc il faut redonner ce plaisir, la dimension de plaisir, et surtout le fait de pouvoir couper d'une réalité pour rentrer dans une autre, celle d'un texte au long cours. Et donc ce problème d'aujourd'hui, c'est qu'on ne coupe pas. Les nouvelles technologies ont fait en sorte que vous êtes toujours en lien et que vous coupez jamais dans rien. Et le fait de couper et de poser son plan. Là, il faut d'entrer dans un texte, ce qui demande une autre énergie, une autre attention, et c'est un rapport à soi profond. Eh bien, ça, aujourd'hui, est plutôt rejeté. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une fuite en avant de nos contemporains. Je dirais ça de l'observatoire que j'ai dans ma librairie. On sent une fuite en avant de gens qui sortent d'eux-mêmes et n'ont plus envie de ce rapport profond à soi. Et c'est ça.
Et c'est ce que vous tâchez de mettre en avant avec cette fête de la librairie. Merci beaucoup Marie-Rose Garnieri-Navré pour ces problèmes techniques et cette liaison un peu écourtée. 12h45 sur France Culture.